Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
Réseau à la une.
Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage et diagnostic des enseignes.
Bonjour et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du réseau à la une. Je suis Camille Boulat, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Bonjour Sylvain.
Bonjour Camille.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast.
Merci d'être à nouveau parmi nous pour ce nouveau numéro. Alors Sylvain, on le répète à chaque épisode, mais avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Louis Frac, cofondateur de BioBurger. Créée il y a tout juste 10 ans, l'enseigne s'est spécialisée dès le départ dans la confection et la vente de burgers 100% bio à prix accessible. Lancée en franchise en 2016, BioBurger compte aujourd'hui 11 restaurants et compte en accueillir 14 nouveaux. D'ici fin 2022, le réseau a participé à notre rubrique « Un réseau à la une » de notre numéro de juillet-août 2021. Bonjour Louis.
Bonjour Camille.
Alors, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Pour commencer, je vais donner la parole à Sylvain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notation de BioBurger et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques de l'enseigne ?
Alors l'évaluation moyenne est à 58%, 59% pour le DIP et 57% pour le contrat. Donc quand on regarde les documents sur le plan global, en fait sur le plan de la conformité juridique, il n'y a pas de gros soucis, hein. C'est des documents qui sont conformes, qui sont structurés et rédigés par un avocat expert en la matière. Là où il y a des points qu'on va pouvoir traiter durant l'échange, c'est sur le plan de la pédagogie et de l'équilibre global, en fait. Le ratio entre être trop simple, mais aussi expliquer le sens et le pourquoi. D'ailleurs, je voyais sur LinkedIn un post de BioBurger sur l'importance du pourquoi avant le comment, que je trouvais très pertinent et qui fera écho à nos échanges, je pense.
Bah justement, dans votre analyse, vous expliquez que les documents qui vous ont été remis méritaient en effet d'être améliorés, et notamment le DIP qui vous semble déséquilibré et qui pourrait mieux décrire du coup les points saillants du concept, ses caractéristiques essentielles, mais aussi ses points différenciants. Est-ce que vous pouvez, Sylvain, nous détailler davantage votre propos et nous donner des pistes du coup d'amélioration ?
Oui, en fait, on a un DIP qui est très juridique. Au sens où on a une superposition d'informations qui sont juxtaposées les unes après les autres et qui obéissent en fait au décret d'application de la loi Dubin. Et voilà, donc en fait, on s'est contenté d'avoir un document conforme sur le plan juridique. Par contre, quand on se place du point de vue d'un candidat à la franchise, d'autant plus sur un jeune réseau, on a besoin d'éléments en fait de réassurance et puis d'éléments d'explication. Du pourquoi et du comment. Donc on est face à un document qui manque un peu de pédagogie. On compile les informations devant être transmises au candidat, mais sans réelle explication, quoi. Donc un exemple, par exemple, moi qui me paraît intéressant, c'est sur l'historique, sur le concept, ou aussi sur l'organigramme juridique. En fait, il y a une page sur l'organigramme juridique. On ne détaille pas et on n'explique pas le pourquoi. Or, quand on voit en fait les actionnaires qui sont au capital de cette société, c'est intéressant d'expliquer pourquoi ils sont là et dans quelle perspective on s'inscrit en fait. Voilà. Sur le document, j'ai noté 108 pages en fait sur l'état général de marché avec trois études qui sont superposées. Mais l'idéal pour un candidat, encore une fois, pour faciliter la lecture, c'est de faire un travail de synthèse, parce que 108 pages avec trois études l'une après l'autre, c'est compliqué. Et après, on n'a rien sur le Covid derrière. Donc, il y a un effort de synthèse, en fait, qui est important à faire. Plus un projet est lisible, plus il attire et plus il favorise l'engagement en connaissance de cause. Et voilà. Donc là, il y a un travail de lisibilité, de pédagogie, d'expliquer le pourquoi. pour rendre le DIP beaucoup plus percutant, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus accessible en fait et utilisable par les candidats.
Louis, est-ce que vous souhaitez réagir et peut-être apporter des précisions, notamment sur l'actionnariat ? On en a longuement parlé, vous et moi, lors de la préparation de l'article. Vous aviez à cœur de choisir un actionnaire qui correspondait à vos valeurs, donc je vais vous laisser nous expliquer un peu tout ça.
Oui, il y a pas mal de sujets abordés. Alors, je suis assez d'accord hein, avec les analyses qui ont été faites. Le tout est de placer en fait dans son contexte effectivement ce document. Aujourd'hui, nous, on démarre encore, on va dire notre développement en franchise. Hein, on a commencé en 2017. Aujourd'hui, on a 11 restaurants ouverts dans cette franchise et 6 franchisés. Donc, on a un volume, on va dire, de franchisés assez restreint. Et c'est vrai que dans notre façon de recruter, ces documents-là ne figurent pas au centre des débats et de la communication de l'enseigne. Tout se fait un petit peu dans les échanges qu'on a avec nos candidats dans le pipe de recrutement. On a notamment une phase d'immersion de 2 jours en restaurant. On échange énormément avec les candidats et c'est là en fait que se passe cet échange. Et c'est vrai que ces documents-là, pris indépendamment, manque de pédagogie, j'en suis clairement d'accord, et sont vraiment, comme vous l'avez dit Sylvain, une addition de d'éléments juridiques mis les uns aux autres. Mais en fait, ils permettent aussi de cadrer les choses avec autour la pédagogie que nous on fait à côté. Mais il n'empêche que je pense qu'à terme, vous avez tout à fait raison, il faudra que ces documents soient au diapason de ce que nous, on dit à nos candidats lors de recrutement des franchisés. Voilà, donc ça, c'était juste pour rebondir par rapport aux remarques. Et oui, alors, sur la question de l'actionnariat à proprement parler, ça nous tient à cœur comme beaucoup d'autres sujets, hein, c'est une démarche globale. Hein, mais l'actionnariat, le but, c'est que aujourd'hui, Anthony et moi, donc les cofondateurs de l'enseigne, avons la majorité, avons les mains libres pour diriger notre enseigne et notre entreprise. Nous avons fait plusieurs levées de fonds, malgré lesquelles nous sommes restés majoritaires. Et les gens qui sont aujourd'hui à l'actionnariat de Burger sont des amis de la famille, historiquement, qui ont fait plusieurs levées de fonds, donc nos parents, nos amis, etc. Et puis, plus récemment, en 2018, on a fait rentrer la coopérative Biocop, qui a mis 1 million d'euros dans le capital et qui a aujourd'hui 17% de l'entreprise. Et donc ça, c'était très important pour nous de faire entrer un acteur tel que Biocop, puisqu'on avait besoin avant tout, évidemment, de l'argent pour subvenir un besoin pour développer l'entreprise. Mais on voulait pas faire appel, en fait, à des fonds d'investissement, on va dire, classiques, avec des horizons de sortie à 5 ans et des TRIC assez élevés. Nous, on joue sur le temps long, on construit les choses sur la durée, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on arrive à vraiment faire avancer et faire des vraies actions et construire une vraie marque. Et ça, Biocop est complètement, évidemment, dans cette démarche-là. Hein. Ils ont prouvé, eux, ça fait 30 ans, 35 ans même, qu'ils structurent leur réseau bio. Donc voilà, on était sur la même valeur. Et ensuite, en 2019 et 2020, on a fait rentrer Lita. Donc Lita, c'est une plateforme de financement participatif en equity et aussi en obligation, spécialisée dans les entreprises à impact. Donc, ils ne financent que des entreprises d'impact social ou environnemental. Et tout un chacun, vous, moi, peuvent acheter des actions, investir dans des entreprises de l'économie réelle qui sont à impact. Donc, ça aussi, ça correspondait entièrement à nos valeurs. Et donc, voilà comment est composé l'actionnariat de Burger.
Sylvain, comment réussir à ce que la pédagogie du franchiseur qui est faite à l'oral soit calquée sur le DIP et le contrat? Voilà. Comment faire que les choses soient cohérentes, que ce soit par écrit ou à l'oral, selon vous?
Déjà, alors, en l'expliquant de vive voix, comme ça vient d'être expliqué, et puis en le synthétisant en le formalisant, en fait, en l'écrivant, c'est, je pense, un bon exercice. Par exemple, présenter les actionnaires, en fait, est un élément qui n'est pas inscrit comme une composante obligatoire devant être présente systématiquement dans un DIP, mais qui est importante, en fait. Il faut prendre conscience, c'est que le DIP, c'est le dernier document qui est remis. Et qu'après, en fait, la loi Dubin est ce qu'elle est, elle l'inscrit et l'engage à ce délai de réflexion. Et c'est intéressant que le DIP soit une synthèse de ce qui s'est dit, soit quelque part la dernière brique du dispositif avant la décision d'y aller ou pas. C'est aussi un document qui reste, qui est lu par les tiers conseils du franchisé. Et puis c'est des documents qui sont parfois comparés parce qu'on a des franchisés qui vont se retrouver avec plusieurs DIP l'un à côté de l'autre. Donc c'est important en fait que ce travail de synthèse, qu'on sacralise l'engagement en connaissance de cause, qu'on sacralise le délai de réflexion quand on est franchiseur, et qu'on se dise, ben voilà, le dernier acte, on a fait la journée découverte, on a pris le temps de se comprendre, on a pris le temps de vous faire découvrir le concept. Derrière, on vous remet le DIP. Et quand on vous remet le DIP, ben, à vous de réfléchir, de faire vos recherches, de monter votre projet et de revenir vers nous. Quelque part, c'est un peu, il y a l'aller où le franchiseur travaille, et après, il y a le retour où c'est du rôle du franchisé, du candidat à la franchise, de faire son travail de réflexion. Et pour ça, il a besoin d'un certain nombre d'informations et aussi de travail de pédagogie. Expliquer pourquoi les actionnaires sont présents. L'historique, en fait, de la montée en puissance, c'est-à-dire deux cofondateurs, un actionnaire, pourquoi il est là, ça a beaucoup de sens, ça doit être valorisé. La participation de Biocoop, c'est pas par hasard. Je connais un peu Biocoop, c'est pas par hasard. C'est une belle histoire, en plus. Et c'est quelque chose qui est plein de sens. Donc, ce sens-là doit être présent dans le DIP, je pense. Et en plus, pour l'enseigne, ça permet de se démarquer vis-à-vis de concurrents qui vont avoir une image ou un DIP ou qui vont moins oser, dans le DIP, expliquer le pourquoi du comment. Mmh. Donc, ce travail-là de pédagogie est vraiment important. Comment on le fait? On le fait avec le plus de sincérité possible. En expliquant pourquoi et en se posant la question pourquoi on a fait ça à telle et telle étape. Mmh. Voilà. Quand on est un réseau comme BioBurger qui s'est lancé et qui a aujourd'hui aucune sortie du réseau, hein, de mémoire, c'est quand même une belle réussite. C'est dommage que je sois caché en milieu de page, on peut quand même le faire valoir, quoi. On a bien bossé, on a bossé prudemment, on se développe prudemment, c'est quand même quelque chose qui est à valoriser. Il y a plein d'enseignes en restauration qui se développent, qui font des excès de vitesse permanents en termes de développement. Là, on n'est pas dans ce cas de figure-là. On sent une certaine sincérité, on sent une volonté de bien faire. Et c'est vrai que moi, quand je lis les DIP, je les lis au regard de l'image que je me fais de l'enseigne aussi. Et c'est là où on voit des écarts. Voilà.
C'est très intéressant, je me permets de réagir parce qu'en fait je me rends compte que c'est un des défauts qu'on a globalement dans l'enseigne sur lequel on travaille, c'est qu'on fait plein de choses bien mais on ne sait pas le dire. Et je me rends compte que le DIP est aussi un des axes de communication pour le dire, alors qu'on ne l'avait pas du tout pris comme tel jusqu'à Exactement. Présent et qu'on le prenait vraiment comme un document juridique obligatoire. Voilà. Or, dans tout un tas, hein, même, on peut nous faire réflexion aussi dans nos restaurants. Dans nos restaurants, on ne dit pas assez ce qu'on fait, etc. Alors, on le sait, on y travaille hein, tous les jours. Et voilà, c'est encore un témoignage supplémentaire dans cette dynamique-là.
Sur le contrat, Sylvain, vous estimez qu'il n'est pas assez développé sur certains points et que des clauses sont imprécises. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et également des pistes d'amélioration sur ce point?
Alors on a un contrat qui est assez peu développé dans son ensemble. En fait, on a des clauses qui sont effectivement assez simples. Après, on est sur un jeune réseau, donc ça peut s'entendre. Le point de détail, je pense, qui en termes de mécanique réseau, en fait, hein, un management de réseau qui pourra poser problème, c'est d'avoir nommé pas mal de prestataires, en fait, à l'intérieur du contrat. Un contrat, il n'est pas censé bouger. Donc après, si jamais on doit changer nos prestataires techniques, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui se passe en cas de problème? C'est pas un usage classique en fait que de faire ça. Ils sont plutôt intégrés en fait au manuel de savoir-faire qui est l'annexe principale du contrat, ce qui permet de mettre à jour en fait les prestataires, les fournisseurs, etc. Après, sur les clauses, oui, on a des clauses assez simples, mais on est sur un jeune réseau en démarrage. Ça peut se comprendre. Voilà.
Vous indiquez également que la durée du contrat de 7 ans renouvelable par tacite reconduction peut interroger. Est-ce que vous pouvez nous détailler pourquoi? Et après, on fera réagir Louis sur ce choix de durée.
Alors pareil, ça va aussi en écho en fait avec le fait de nommer des prestataires à l'intérieur du contrat. C'est quand on a un contrat à tacite reconduction, on ne sacralise pas la fin du contrat. Or, dans une relation de réseau, l'usage vertueux, en fait, hein, ça c'est l'histoire de la franchise qui nous a amené jusque-là, c'est d'instituer une fin de contrat de forcer quelque part la réunion des parties, de remettre un nouveau DIP et de refaire signer le nouveau contrat en vigueur au sein du réseau. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir un réseau le plus homogène possible. Parce que ça permet d'éviter d'avoir des contrats qui évoluent. Hein. Le droit évolue, donc les contrats évoluent, comme le savoir-faire évolue. Ce qu'il y a, c'est que faire évoluer des contrats en cours de route, ben, en fait, c'est multiplier les avenants. Donc ça pose problème. La mécanique la plus vertueuse possible, c'est d'avoir une échéance au contrat et donc de signer le nouveau contrat en vigueur au sein du réseau. Voilà. Sur des éléments de droit qui peuvent évoluer, par exemple tout ce qui est législation RGPD qui aujourd'hui s'institue dans le contrat. Il y a quelques années en arrière, tout ce qui était site internet, e-commerce et maintenant communication avec les réseaux sociaux, c'est des éléments qu'on voit en fait se réguler grâce au contrat qui n'était pas présent dans les précédents contrats. Et quand on est en tacite reconduction, bah, en fait, on a un contrat qui continue et qui se renouvelle de lui-même. Et donc, changer de contrat, c'est plus compliqué. Voilà. C'est pour ça que la tacite reconduction est très, très peu présente au sein des réseaux. C'est un usage qui est extrêmement réduit, très, très minoritaire. L'écrasante majorité des réseaux sont sur des contrats à durée déterminée de 5, 7 ou 9 ans.
D'accord. Louis, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de développer Sylvain à l'instant ?
Oui, sur le fond, je suis entièrement d'accord. Nous, on a laissé ça au début comme une possibilité d'ouverture, de conférence aussi. Voilà, on signe pour 7 ans parce que Business Model est fait sur 7 ans, tout est fait sur 7 ans. Et que le but, c'était de montrer que si tout se passait bien dans la normalité, l'aventure se poursuit. Alors qu'on pourrait éventuellement croire, ou le franchisé pourrait mal prendre, que voilà, c'est 7 ans et puis c'est tout. Si on a envie de terminer, ben, il n'y a aucune possibilité de continuer. Alors après, tout ça, ça rejoint la discussion tout à l'heure, hein, ça s'accompagne de pédagogie avec une ou l'autre des solutions. C'est sûr que la solution de Sylvain, elle est quand même peut-être plus sécurisante pour nous, permet d'avoir plus d'homogénéité, je suis complètement d'accord. Voilà. Cela dit, avec les contrats qui sont en cours, je me fais pas trop de soucis avec les franchisés qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on aura évidemment une discussion intelligente à la fin du contrat qui nous permettra de re-signer un contrat moderne, on va dire, actuel. Même si je pense que la réflexion doit se mener sur ce sujet, sur les prochains contrats qu'on signera. Ouais.
Bah, c'est quelque part un peu le bon moment parce qu'il y a toujours une phase de lancement de réseau. Hein, premier étage de la fusée, on va passer de 2-3 pilotes à 10 établissements avec quelques franchisés qui nous ont rejoints. Qu'ont une antériorité de moins de 3 ans, 3-4 ans d'ancienneté maximum, là on peut encore changer le modèle en fait. Après, si on veut s'inscrire sur un deuxième palier du métier de franchiseur qui est passé de 10 à 50, là il faut un niveau de rigueur un peu plus poussé dans l'intégralité du process, y compris sur la partie juridique. Donc c'est le bon moment de se poser ces questions-là en fait. Parce qu'effectivement, à 7 autour de la table, ça se résout assez facilement. À 35-40 autour de la table,
c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué.
Voilà. C'est comme les repas de famille, quoi.
Louis, vous m'expliquiez lors de nos échanges que votre volonté était d'être le pionnier, de la restauration 100% bio et responsable. Alors, vous m'aviez détaillé certains axes RSE importants pour vous, comme la saisonnalité des produits et les emballages compostés et compostables. En quoi est-ce essentiel, en quelques mots, pour vous? Et quelles sont vos autres pistes de réflexion? Parce que je sais qu'il y en a plein d'autres.
Alors pionnier, pour le coup, pionnier, oui, c'est vraiment ce qu'on se revendique, pionnier. Hein. On a ouvert il y a maintenant 10 ans, jour pour jour, hein. C'était hier notre anniversaire de notre premier restaurant. Et effectivement, la première action qu'on a faite depuis le début, c'est le 100% bio. Donc c'est une offre intégralement bio. Et aujourd'hui, on est la seule enseigne qui se développe de manière nationale en restauration proposant du 100% bio. Donc ça, c'est vraiment notre pierre angulaire. L'autre aspect, c'est qu'on a construit notre réseau. On estime qu'on a une entreprise à mission et donc notre mission, c'est promouvoir la transition écologique, participer à la transition écologique avec un biais, un principal levier, c'est on va dire la simplicité, c'est-à-dire simplifier au maximum la transition écologique pour nos clients, c'est-à-dire proposer des solutions pour que ce soit pas compliqué, pour créer des portes d'entrée en fait, et aussi influencer les consommateurs sur de nouvelles méthodes de vie de consommation. Et donc ça prend forme. Le premier levier, c'est le 100% bio et accessible. Donc accessible en termes de prix, accessible en termes de rapidité de service et de simplicité de carte. Donc ça, c'est depuis toujours. Le deuxième levier, c'était évidemment les emballages, comme vous l'avez dit, donc compostés et surtout compostables et surtout compostés en restaurant. Donc là-dessus, à l'emballage, il y a un gros sujet en cours. Hein, on est en thèse de consigne actuellement avec Uber Eats. Il y a la loi de 2023 qui se prépare, donc ce n'est que le premier volet de nos actions sur les emballages. Il y a encore tout à faire. Troisième levée, la saisonnalité, ce qui semble assez simple, mais qui est plus compliqué que ce qu'on croit et que en fait peu de réseaux respectent actuellement. Donc saisonnalité des produits, plus de tomates en hiver, plus d'avocats en été. Quatrième levier, l'offre végé. Donc l'offre végé, on l'a fait depuis toujours. Donc depuis toujours, tous nos burgers sont disponibles en façon végétarienne. Mais en fait, c'était un peu, voilà, vous prenez votre recette carnée et puis vous remplacez le steak de bœuf par un steak végé, et donc c'est un peu par défaut, quoi. Et en fait, ce qu'on a fait depuis cet hiver, c'est qu'on a lancé trois burgers dédiés avec des recettes végées à proprement parler, sur la carte, avec trois façons différentes d'apprécier du végétarien, donc avec des galettes différentes, avec des recettes différentes, et surtout, tout basé sur la gourmandise, le côté sexy et gourmand. La porte d'entrée, là, c'est de se dire, il faut qu'on prenne autant de plaisir à manger un burger végé qu'un burger carné. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas autant se régaler et que ce puisse être autant un peu jouissif de manger un burger végé qu'un burger carné. Et donc, on va travailler sur des recettes comme ça qui donnent envie et qui vont aller chercher des gens qui ne sont pas forcément végétariens et qui ont envie de bien se faire plaisir. Et ça nous a porté, en fait, quand on a commencé les burgers, c'était 4% de burgers végés. Aujourd'hui, on est à 17%. Et là, sur cette dernière action, on est passé de 12 à 17 en quelques semaines. Et donc ça, typiquement, en termes d'impact, c'est énorme. On sait à quel point on doit rééquilibrer notre agriculture, rééquilibrer notre consommation. On est toujours pour l'élevage, hein, il faut qu'il ait sa place, mais dans une moindre mesure, et donc on doit rééquilibrer. Donc ça, c'est les quatre leviers qu'on a aujourd'hui, et nous, on a une autre devise, c'est vraiment un pas économique, un pas écologique. C'est-à-dire que la rentabilité, la stabilité économique, c'est primordial, mais c'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour ensuite pour pouvoir activer le maximum de leviers possibles et accompagner cette transition écologique. C'est ça la mission de Beauvoir.
Sylvain Bartholomew, est-ce que selon vous, toute cette vision RSE que vient de nous détailler Louis Frac est assez mise en avant dans les documents et comment faire pour les valoriser davantage vu que ce sont des éléments différenciants?
Alors c'est des éléments différenciants, effectivement, c'est des éléments qui pourraient rentrer en fait dans le DIP comme étant une composante de l'engagement en connaissance de cause. Si on avait à les mettre en avant, on pourrait les mettre en avant du point de vue du profil du candidat. Parce qu'il y a une appétence, on va dire, pour ces sujets-là. Il peut y avoir des sujets d'engagement à prendre en tant que franchisé, parce que la RSE, c'est bien dans l'entreprise, mais la RSE, elle pose question aussi en dehors de l'entreprise. Hein. J'ai rien contre les Porsche Cayenne, mais si j'ai un magnifique Porsche Cayenne qui consomme 12 litres au 100 en sortant de mon resto avec des emballages compostés, compostables, ça va pas le faire. Donc il peut y avoir des sujets comme ça qui sont importants, qui vont au-delà en fait de la relation professionnelle, franchiseur-franchisé. Et puis après, il y a un autre point important qu'on lit peut-être pas suffisamment dans le DIP, dans le contrat, c'est qu'on est sur des métiers qui changent énormément. Voilà, quand on parle de burgers végé, quand on parle d'évolution en fait des recettes, ça demande énormément d'agilité dans le savoir-faire et donc énormément d'agilité du côté des franchisés aussi. Et ça, c'est un élément qu'on ressent pas assez en lisant les documents. On n'a pas un engagement quelque part ou une sensibilisation au fait que les recettes vont évoluer fortement, que le concept lui-même peut évoluer fortement avec un fil conducteur qui est 100% bio, 100% responsable et une responsabilité RSE extrêmement forte. Donc on le lit pas, on le ressent pas. Peut-être est-ce bien décrit et bien écrit dans les manuels de savoir-faire, mais en tout cas au stade du DIP, que la face visible de l'iceberg, on le ressent malheureusement pas. Et encore une fois, le discours est très intéressant. Donc c'est dommage de pas le lire. De facto, quoi.
Louis, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose?
Non, mais on redit un peu la même chose que tout à l'heure. Hein. Je suis entièrement d'accord. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça passe beaucoup par le recrutement, en fait. C'est-à-dire qu'on sélectionne énormément nos franchisés. Nos deux premiers critères de choix, ils sont simples. C'est l'intitulé personnel en premier. Et le deuxième, c'est les valeurs. C'est le pourquoi, le fameux pourquoi que j'ai mis sur les midinières. Il faut qu'on partage le même pourquoi. Et quand vous partagez le même pourquoi avec vos franchisés, alors il peut y avoir encore évidemment quelques mésententes, mais globalement vous allez dans la même direction. Et si vous allez dans la même direction, ce genre d'évolution, sont globalement se passe bien. Mais il n'empêche que malgré tout cela, ça doit quand même faire mention dans les contrats. Ça doit être plus visible. J'en suis d'accord. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a fait de cette manière-là. On a pensé à cela de cette manière-là pour engager nos franchises.
Je vous remercie à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du réseau à la une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode consacré cette fois-ci à l'enseigne Tutti Pizza. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio Apple, Google ou encore Spotify. À bientôt.
Réseau à la une.
Réseau à la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.